commune est-elle obligée, d'un point de vue réglementaire, d'intégrer son patrimoine dans son document d'urbanisme et d'y inscrire sa protection? La réponse à cette question peut se faire en trois temps. Le code de l'urbanisme l'impose comme thématique du PLU, mais en laissant beaucoup de marge d'intervention à la collectivité, et ce, sous le contrôle du juge qui peut rappeler à la collectivité sa responsabilité patrimoniale. Tout d'abord, il faut rappeler que le patrimoine fait partie des items auxquels l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit répondre, en particulier au travers des SCOT et des PLU. L'article L101-2 du Code de l'urbanisme vise en effet autant la protection des sites, des milieux et des paysages naturels que la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel. Un document d'urbanisme doit donc intégrer par principe les patrimoines naturels et culturels. Néanmoins, le Code de l'urbanisme ne précise pas le degré d'intégration de ces patrimoines, tant dans leur quantité, leur nombre, leur surface, que dans leur qualité, entendu par exemple comme leur diversité spatiale, centre-ville, quartier historique, leur diversité historique, du patrimoine médiéval à celui du XXe siècle, ou au sens de la diversité thématique, patrimoine religieux, industriel, balnéaire, social, etc. Il serait donc délicat, pour ne pas dire dangereux, pour une commune de rester totalement silencieuse dans son PLU en matière de patrimoine, sauf à pouvoir prouver que la commune n'en possède pas, ce qui pose la question de la définition même du patrimoine. En sens inverse, il est aussi possible pour une collectivité de n'intégrer que peu d'éléments. L'article L151-19 plaide en ce sens. Il ouvre seulement à la collectivité une possibilité d'identifier les éléments de paysage et de patrimoine, le règlement peut. Puis le L151-19 ouvre également une simple faculté de protéger les éléments repérés par le PLU. La rédaction accentue même l'effet de simple invitation. Le règlement peut définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à les protéger, etc. La collectivité se trouve donc à ce niveau totalement libre de réglementer ou non les patrimoines qu'elle a listés. Néanmoins, sur un plan pratique, quelle logique à se contenter d'intégrer dans un document d'urbanisme un inventaire du patrimoine? Autant le laisser, dans ce cas, à l'extérieur du PLU. L'intérêt de ce dernier est de permettre l'édiction de règles opposables aux demandes de travaux. Il est aujourd'hui très fréquent que le juge administratif ait à juger de la légalité d'un PLU, soit sur recours direct après approbation du PLU, soit par exception d'illégalité à la faveur d'une contestation de permis de construire ou d'une autre autorisation de travaux. Il est aujourd'hui très fréquent que le juge administratif ait à juger de la légalité d'un PLU, soit sur recours direct après son approbation, soit par exception d'illégalité à la faveur d'une contestation de permis de construire ou d'une autre autorisation de travaux. À ce titre, la juridiction peut avoir à se prononcer sur les options patrimoniales de la planification urbaine. Elle devient ainsi un acteur du PLU en évaluant la cohérence du PLU sur ce thème. Le juge va en vérifier les fondements techniques, conduisant en particulier à la justification des choix opérés par la collectivité. Il peut aussi sanctionner les faiblesses méthodologiques en matière d'inventaire, ou sur un autre plan, une trop forte disproportion entre la richesse patrimoniale d'un territoire, si elle est avérée par des atlas ou des inventaires du patrimoine, et une trop faible protection dans le document réglementaire. Plusieurs PLU ont déjà été annulés sur la base de cette insuffisante intégration du patrimoine dans la planification urbaine. La collectivité ne peut donc pas se contenter de faire du façadisme, du greenwashing en quelque sorte, en la matière. Son PLU doit être en partie à la hauteur de son patrimoine.